Vous écoutez
RMC.
RMC 6h30.
RMC, Apolline Matin.
Le journal d'Élise Dangean. Bonjour Élise.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Un attentat déjoué tous les deux mois et des Jeux Olympiques qui arrivent à grands pas. Alors sommes-nous prêts? Emmanuel Macron promet que oui. En tout cas, le centre de renseignement olympique tourne à plein régime. Près de 500 interpellations partout en France grâce aux opérations Place Net pour lutter contre le trafic de drogue. Et puis le déficit de la France publié ce matin. On va enfin savoir à quel point il va falloir se serrer la ceinture.
La menace terroriste islamiste est réelle et elle est forte.
C'est l'avertissement lancé hier par le Premier ministre alors que la France a rehaussé son plan Vigipirate au niveau maximal après l'attentat de Moscou. Résultat, 4000 militaires supplémentaires vont être déployés dans le cadre de l'opération Sentinelle. Et la présence policière va être renforcée, notamment aux abords des écoles. Et pour cause, le groupe État islamique au Khorassan, responsable de l'attaque en Russie, est à l'origine de plusieurs tentatives sur le sol français. Emmanuel Macron l'a lui-même confirmé, tout en assurant qu'on serait prêt pour les Jeux Olympiques, Nicolas Pelletier.
Et depuis le début, les services de l'État travaillent sur le pire scénario possible autour de ces JO. La menace terroriste n'a jamais faibli, il faut le garder en tête, commente un proche de l'organisation. Depuis plusieurs semaines, ce sont surtout les alertes cyber et les tentatives de désinformation autour de ces Jeux qui rythment les remontées du terrain. Et dès le 8 mai, avec l'arrivée de la flamme à Marseille, la pression va augmenter d'un cran, car tout le monde connaît le chemin avec précision et des horaires définis. Le pire scénario, explique ce responsable policier. Le centre de renseignement olympique tourne à plein régime, les criblages des accrédités s'enchaînent. 10 fichiers S ont par exemple été écartés de l'organisation. Et si la menace est forte à l'approche de l'événement, la jauge de la cérémonie d'ouverture pourrait une nouvelle fois baisser. Il suffit pour les services de l'État de désactiver le QR code de certains invités.
Une autre menace que le gouvernement tente d'éradiquer, celle liée au trafic de drogue. 4 nouvelles opérations Place Net XXL ont été lancées hier matin autour de Lille, Paris, Lyon et Dijon. Des opérations coup de poing qui ont déjà permis l'interpellation de près de 500 personnes, en comptant également celle lancée la semaine dernière à Marseille. Mais alors pour quel résultat? À la cité de la Castellane, les trafiquants se font discrets, mais ça laisse perplexes les habitants qu'a rencontré Lionel Dion pour RMC.
Des contrôles de véhicules aux entrées, des patrouilles pédestres de CRS à l'intérieur de la cité, mais à part cela, la présence policière ne change pas le quotidien de Régis qui vit à la Castellane depuis 20 ans.
Ça n'a pas changé grand-chose pour nous. Faut pas oublier qu'à Castellane, effectivement, il y a du trafic, mais on vit tranquillement. On s'occupe de ce qui nous regarde et avec ou sans policiers, on vit notre vie. On apprend à vivre avec cette population. Voilà. Il y a plein de populations à Castellane, il y a plein de détenus à Castellane, ils vivent ensemble. Eh ben les trafiquants, c'est pareil.
Victor lui peste contre les PV que les policiers dressent en cas de voiture mal garée, mais sinon, il ne croit pas non plus qu'il puisse se mettre fin durablement au trafic.
Même 3 semaines, 3 mois, je crois que ça ne va pas les déranger, moi je pense ça. Ceux qui font le trafic, dès qu'ils seront plus là, ben ça va reprendre.
Et côté syndicat de police, on ne peut que confirmer et décide d'unité SGPFO.
Il est certain qu'il faudra que ces opérations Place Net durent des mois et des mois pour pouvoir, le cas échéant, essayer d'impacter les narcotrafiquants. C'est pour cela qu'il faut absolument qu'à moyen terme, on est effectivement des renforts, parce que sinon, ça va être très usant pour tout un chacun.
Des policiers qui attendent aussi des sanctions pénales fortes pour tenter au moins de dissuader les petites mains des réseaux.
C'est une première. Après plus de 5 mois de guerre, le Conseil de sécurité de l'ONU a enfin adopté une résolution pour un cessez-le-feu immédiat à Gaza. Une adoption rendue possible par l'abstention américaine. Ça aussi, c'est nouveau et ça n'est pas du goût d'Israël qui a décidé, dans la foulée, de ne pas envoyer sa délégation attendue à Washington.
6h34 sur RMC. D'ici 1h, on connaîtra le chiffre qui donne des sueurs froides au gouvernement français depuis plusieurs semaines, celui du déficit public pour l'année 2023.
Et on sait d'ores et déjà qu'il sera nettement supérieur à ce qui était prévu. Alors pour trouver des économies, l'exécutif veut s'attaquer à l'assurance chômage. Un séminaire gouvernemental sur le travail se tiendra demain, alors même, Victor Johannin, que les partenaires sociaux sont toujours en pleine négociation.
Oui, c'est la 13e réunion et les partenaires sociaux n'arrivent toujours pas à se mettre d'accord sur un texte. Mais sans attendre la conclusion de ces négociations prévues dans 2 semaines, plusieurs voix gouvernementales affichent leurs intentions. Au ministère du Travail, Catherine Vautrin soutient l'idée du MEDEF de créer un CDI fin de carrière pour encourager la reprise d'emploi des seniors. À Bercy, Bruno Le Maire lui plaide pour réduire la durée d'indemnisation pour tous. Des interférences nocives, répondent les partenaires sociaux, pour le coup unanimes. Le gouvernement s'acharne à baisser les droits des chômeurs, regrette le négociateur de la CGT, alors qu'un responsable patronal dénonce une fébrilité qui conduit le gouvernement à piocher dans les comptes de l'assurance chômage. Syndicats et chefs d'entreprise y voient surtout la volonté de l'État de gérer à leur place la protection sociale. Or, rien ne dit qu'il serait plus efficace, critique le numéro 1 du MEDEF.
2023 aura été l'année du déficit qui se creuse et des droits bafoués. C'est le constat de la Défenseure des droits qui publie son son rapport annuel ce matin, ses services ont été 10 fois plus saisis qu'en 2022 et quasiment intégralement sur la question des services publics, conséquence d'une trop grande dématérialisation, Nicolas Roper.
Des services publics injoignables où tous les échanges passent par Internet ou par des serveurs vocaux automatisés. Voilà ce que constatent de plus en plus d'usagers qui saisissent la Défenseure des droits. Une demande sur 5 concerne la protection et la sécurité sociale. Plus de 4500 personnes se sont par exemple plaintes de ne pas pouvoir obtenir les réponses à leurs questions auprès de leur caisse de retraite. Viennent ensuite la CAF ou l'assurance maladie. Il faut recréer du lien avec les usagers, plaide Arnaud Bontemps, porte-parole du collectif Nos Services Publics.
D'abord, on peut commencer par arrêter de supprimer des implantations physiques parce que encore aujourd'hui, il y a des reculs dans la sécurité sociale, etc. Arrêter de supprimer des postes aussi. C'est très impressionnant. Par exemple, dans l'assurance maladie, les diminutions de postes sont massives dans les dernières années. Ça se compte en dizaines de milliers de personnes.
Le collectif redoute que les réductions budgétaires annoncées par le gouvernement n'éloignent encore un peu plus l'administration de ses usagers.
En football, les Bleuets ont dû se contenter hier soir d'un match nul de partout face aux États-Unis. Les États-Unis qui seront le premier adversaire des espoirs aux Jeux Olympiques. Et ce soir, c'est au tour des Bleus de jouer face au Chili pour une rencontre amicale très attendue après leur défaite samedi face à l'Allemagne. Coup d'envoi à 21h.
Et puis le quintet 13h55 sur l'hippodrome de Saint-Cloud.
Et voici le pronostic de la Dream Team des courses RMC. Leur favori aujourd'hui, c'est le numéro 8, Concerto. Leur outsider, c'est le numéro 7, Winterland. La course du quintet à suivre en direct sur RMC Découverte.
C'était le journal des listes dont on vous retrouve à 7h30.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
À suivre dans Apolline Matin sur RMC.
Alerte maximale face au risque terroriste. Vous allez voir beaucoup plus de militaires dans les rues, dans les gares, devant les écoles ou les lieux de culte. La France est de retour au plus haut niveau du plan Vigipirate, à 4 mois seulement des Jeux Olympiques. Est-ce qu'il faut maintenir les grands événements, le parcours de la flamme, la cérémonie d'ouverture, alors qu'un attentat est déjoué, je cite, tous les 2 mois. Voilà ce qu'a annoncé Gérald Darmanin, et que la branche de Daesh qui a frappé à Moscou a déjà projeté précisément des attentats en France. On en parle tous ensemble dans un instant. On vous attend au 32-16.
RMC Police Justice.
Mais d'abord, c'est l'heure de l'histoire du jour repérée et racontée par le service police-justice d'RMC. Bonjour Lucille Pascanet.
Bonjour Apolline.
Ce matin, vous nous parlez de cet employé de la mairie de Marseille condamné à de la prison ferme pour corruption.
Oui, entre 2016 et 2019, cette femme de 52 ans travaillait au service des logements du 2e et du 3e arrondissement de la mairie de Marseille. C'est elle qui attribuait les logements sociaux de la ville. Et pendant 4 ans, elle en a profité pour obtenir des cadeaux et des pots de vin en échange de potentiels appartements. Pour mettre un dossier sur le dessus de la pile, elle réclamait entre 1000 et 2000 euros aux demandeurs de logements sociaux. Des personnes en grande précarité qui vivaient dans des logements insalubres, parfois avec des enfants handicapés et qui avaient absolument besoin de ces logements. C'est comme ça qu'en 4 ans, elle a encaissé plus de 40 000 euros de bakchich. À son procès le mois dernier, la juge l'a accusée d'avoir créé un système pour exploiter la précarité et la vulnérabilité de ses victimes dans un quartier de Marseille parmi les plus pauvres de France. L'ancienne agente, elle, se considère plutôt comme une femme de cœur. À la barre, elle a même revendiqué le surnom de Mère Teresa du 2e arrondissement. Elle a expliqué que si elle avait favorisé certains dossiers plutôt que d'autres, ce n'était que pour aider les gens par empathie. Elle n'a pas convaincu les juges. Ils l'ont condamnée à 2 ans et demi de prison ferme, étant donné, je cite, son rapport au mensonge et sa totale incompréhension du service public. D'autant que cette femme a continué d'escroquer des demandeurs même après avoir été écartée du service des logements en 2017. Elle ne payait plus son loyer depuis des années. Elle a assuré être tombée dans une spirale de surendettement.
Le récit de Lucille Pascanet du service police-justice d'RMC.
RMC, 6h39.
Apolline Matin. RMC, Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 6h41, excellent réveil à tous.
À vous de nous dire.
4000 militaires de plus déployés sur le terrain, des patrouilles supplémentaires devant les lieux de culte, devant les écoles, dans les gares ou dans les aéroports. La France repasse en alerte urgence attentat. C'est le niveau le plus haut du plan Vigipirate. À 4 mois, jour pour jour, des Jeux Olympiques. La France est une cible et ça ne date pas de l'attentat de Moscou. Écoutez ce que disait hier soir sur France 2 le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.
Oui, nous déjouons beaucoup d'attentats en France, un tous les 2 mois, organisés. Et nous pensons que, voilà, l'attention des services de renseignement et de la population française doit être éveillée, parce que la menace est forte. On n'a jamais été autant armé, je veux le dire aux Français, contre le terrorisme. Et on n'a jamais autant déjoué d'attentats en France.
Alors on est à 4 mois tout pile d'accueillir le plus gros événement de la planète, les Jeux Olympiques. La question ce matin, c'est est-ce qu'il faut maintenir ce parcours de la flamme? Est-ce qu'il faut maintenir telle qu'elle est prévue la cérémonie d'ouverture ou même les grands événements en France avec cette nouvelle menace qui pèse sur la France? On en parle avec vous tous. Il y a déjà Anne-Laure et Stéphane qui sont là. Bonjour Stéphane.
Bonjour Apolline.
Stéphane, vous êtes chauffagiste dans le Val d'Oise. Est-ce que vous estimez qu'il faut continuer comme si de rien n'était et maintenir en l'état les prévisions et notamment les prévisions pour les Jeux Olympiques?
Continuer à vivre, oui, mais prendre plus de précautions. La cérémonie, c'est magnifique à la base. Au fond, elle est magnifique de faire ça. Mmh. Mais déjà à l'époque, c'était craignos, hein, comme on va dire. Mmh. Là, aujourd'hui... 350 000 personnes, 6 km de long. Quand on connaît un peu les quais, franchement, c'est
bon,
j'espère que ça va bien se passer. Puis, moi, j'ai dans ma famille, j'ai des policiers, ils sont dans le stress pendant 2 mois. Tout le monde est stressé, quoi. Je veux dire, parce que même à Moscou, Moscou, qui n'est pas une ville facile, hein, ils arrivent, ils font 150 morts, quoi. Mmh. Donc, le plan B, j'espère qu'ils ont un plan B quand même. Hein.
C'est toute la question d'ailleurs. Est-ce qu'ils ont effectivement un plan B? Est-ce qu'il faut commencer à envisager un plan B? Ça a déjà été réduit, hein, souvenez-vous. On est déjà dans le plan B en fait. Par rapport à ce qui avait été initialement prévu, qui était encore plus considérable. Après, c'est vrai que c'est assez étonnant, Stéphane, de se dire qu'on passe en urgence attentat. Alors attention, hein, urgence attentat, c'est ponctuel. Ça veut dire qu'on ne sera peut-être plus en urgence attentat dans 4 mois. Hein. On était remonté en vigilance urgence attentat juste après l'attentat d'Arras, l'assassinat de Dominique Bernard. Ça a duré quelques semaines avant qu'on ne redescende d'un cran et qu'on remonte à nouveau là après ce qui s'est passé à Moscou. Stéphane, restez avec nous, il y a aussi Anne-Laure. Bonjour Anne-Laure.
Bonjour.
Anne-Laure, vous travaillez dans le Finistère, oui. Employée dans la grande distribution, c'est bien ça?
C'est bien ça.
Vous en pensez quoi, vous? Est-ce qu'on maintient tout ce qu'on avait prévu ou est-ce qu'on change le programme?
Je pense que c'est... Je ne sais pas si on arrivera à changer maintenant, là, changer de plan, parce que c'est dans 4 mois et je pense que ça va être compliqué. Mais il faudra être extrêmement vigilant, ça c'est clair. Mais voilà, après, oui. C'est Madame Hidalgo et toute l'équipe du comité olympique qui ont décidé ça. C'est peut-être pas prudent parce que s'il y a une menace d'attentat, ça va être compliqué de mettre en place un système de sécurité.
De réussir à sécuriser tout ça. Anne-Laure, je sais pas quel est votre quotidien. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir changé, d'être plus vigilante, d'être plus inquiète?
Non, parce que moi je suis dans un petit village en bord de mer, donc.
Vous êtes où exactement, Anne-Laure?
Comment?
Vous êtes où exactement?
Je suis à Kerlouan, dans le Finistère Nord, à 45 km de Brest. 40 km de Brest.
Et vous avez l'impression que vous êtes quand même relativement préservé de...
Oui, quand même, ouais, on va pas dire... Mais bon, quand même, je suis quand même inquiète pour les gens qui sont... Pour les Français, quoi.
Oui, voilà. C'est ça, c'est une forme d'inquiétude. Alors après, c'est vrai qu'à partir du moment où on passe dans ce niveau de vigilance, il y a des conséquences extrêmement pratiques, hein, pour nous tous, par exemple les enfants. Je sais que quand ils ont une sortie scolaire, elle est annulée dans la période urgence attentat. C'est-à-dire que les enfants ne peuvent pas, comme habituellement, prendre le métro, le bus pour aller en sortie scolaire. Alors c'est vrai qu'on aurait du mal à comprendre que les enfants ne puissent pas aller au cinéma ou au théâtre ou au musée. Et que dans le même temps, on puisse accueillir la cérémonie des Jeux Olympiques, non?
Oui, et puis mais en même temps, il y a cette question de.
On est tous un peu.
Est-ce qu'on donne pas raison aussi aux terroristes en leur disant, ok, on n'est plus capable de vivre comme avant,
on n'est plus capable. C'est-à-dire, de fait, dans le quotidien, il y a un certain nombre de choses.
D'organiser une cérémonie des JO comme on aimerait le faire, quoi.
Exactement.
Mais en même temps, cette cérémonie des JO, ça repose la question de la cérémonie des JO comme elle a été prévue à la base. Je repense, parce que j'y étais et que je connais très bien ce pays, à la cérémonie d'ouverture des JO à Rio, par exemple, en 2016. C'était à l'intérieur du stade Maracana. Je connais un peu Rio. Et il se trouve que Rio, pour d'autres raisons, c'est une ville qui est très dangereuse, extrêmement compliquée à sécuriser. Il a jamais été pensable d'effectuer une cérémonie d'ouverture sur les 14 km de plage à Copacabana, ce qui aurait été absolument divin et magnifique. Non, ça a été conscrit
qu'il fallait être réaliste,
au stade Maracana de manière à sécuriser l'événement au maximum. Bon, bah voilà, c'était un choix.
Nicolas.
Non, je remarque que quand il y a eu un attentat à Atlanta, une petite bombe qui a explosé à 23h qui a fait un mort, on a annulé aucune des épreuves le lendemain, on a continué les Jeux Olympiques. En 72, quand il y a eu 12 athlètes israéliens tués à Munich par des Palestiniens, on a continué les Jeux. D'ailleurs, ça avait fait polémique, mais on a annulé aucune épreuve. Moi, je crois qu'il ne faut pas reculer. Sinon, on annule tout. On annule le match de foot ce soir à Marseille. Oui. On annule le Tour de France. Le Tour de France, on connaît les dates. Il fait 4000 km tous les ans. On annule
pas le Tour de France. Comment le sécuriser, honnêtement?
Et c'est pas plus facile de sécuriser le Tour de France que la flamme olympique. Mais moi, je crois qu'il ne faut pas céder. Il faut tout maintenir.
Et il y a Jérôme qui nous rejoint aussi depuis la Gironde. Vous êtes à Talais. Bonjour, Jérôme.
Oui, bonjour, Pauline. Bonjour à toute l'équipe.
Jérôme, qui est sapeur-pompier, vous en pensez quoi, vous?
Alors, j'ai pas du tout suivi le sujet, là. J'étais en coupure. Donc,
Pardon. Non, vous n'avez pas suivi le sujet, mais vous appeliez pour ça. Mais simplement, oui, à l'instant, ce qu'on disait déjà avec Anne-Laure et Stéphane, c'est que, cette question, est-ce qu'il y aura un plan B? Est-ce qu'il faut réduire la voilure de la cérémonie d'ouverture ou est-ce qu'il faut tout maintenir malgré l'inquiétude et la vigilance attentat? Est-ce qu'on continue comme si de rien n'était?
Alors, si on commence à lire avec le terrorisme, c'est montrer aussi également une faiblesse. Donc, pression attentat ou pas, moi je pense qu'il faudrait quand même les maintenir. Tout simplement.
Tout maintenir, ça ne vous inquiète pas davantage que ça?
Non, parce qu'à chaque fois qu'on en parle, en fait, il ne se passe pas grand-chose.
Alors, cela dit, c'est aussi pour ça qu'on augmente la vigilance. C'est précisément pour pouvoir y faire face. Amélie.
J'ai une question à vous poser, Jérôme. Vous dites il ne faut rien annuler, tout maintenir. Et s'il se passait quelque chose, est-ce que du coup, vous pardonneriez le fait qu'on n'ait rien annulé?
Moi, je pense qu'avec la pression qu'il va y avoir, avec les services de sécurité qui surveillent, ça va être très compliqué qu'il se passe quelque chose. Sinon, ça va être carrément une... S'il se passe quelque chose avec tout le système qui va être mis en place, ça va prouver la faiblesse de nos services. Et je pense que nos services sont quand même largement compétents, vu qu'on nous explique qu'on déjoue beaucoup d'attentats ou...
Et c'est ce qui a été rappelé hier, plusieurs attentats qui ont donc été déjoués, y compris depuis cette même organisation terroriste qui a frappé à Moscou. Merci Jérôme, Stéphane, Anne-Laure, merci à chacun de vous d'être passé par le 32-16. On vous attend au 32-16, cette urgence attentat, ce niveau maximal de la menace. Est-ce que ça vous inquiète? Est-ce qu'il faut changer les choses? Est-ce qu'au contraire, vous vous dites que ça veut dire qu'on fait face et qu'on prend au sérieux cette menace? Le 32-16 est ouvert.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Dans un instant, racontez-nous, Nicolas.
Et je vous raconte l'histoire de Boeing. Tout l'état-major de l'entreprise est débarqué.
Et on n'avait pas osé vous en parler, Charles.
Et on va parler des biloutes, des pélos et autres minots. Un petit tour de France des expressions.
A tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Mais tout de suite, on va sur l'appli RMC. Évidemment, surveillez vos réactions en direct grâce à Direct Studio, vos messages sur cette question, évidemment, de la vigilance, de la menace d'attentat. Martine nous dit évidemment qu'on est inquiet. Les images de Moscou nous rappellent ce que la France a déjà subi. Et franchement, je ne vois pas l'intérêt de faire une cérémonie grandiose pour les JO. Il faut admettre qu'on n'a pas les moyens de tout sécuriser. Alors pourquoi ne pas réduire un peu la voilure? Une cérémonie plus modeste, mais plus sûre, c'est la seule solution, nous dit Martine. Arnaud, lui, nous dit, ne cédons pas à la panique. On sait que le risque zéro n'existe pas, il ne faut pas s'arrêter de vivre. Pas question de renoncer au grand match ou au grand concert, ça serait donner raison aux terroristes. Ils veulent s'en prendre à notre mode de vie, il faut se battre pour le conserver, nous écrit Arnaud. Et puis Eric lui nous dit, soit on annule les jeux et on vit continuellement encore sous la peur, soit on assume, on continue à vivre notre vie, à faire nos événements et on fait confiance aux forces de l'ordre et aux renseignements, nous dit Eric. Et vous, êtes-vous inquiet face à cette menace d'attentat? Vous n'hésitez pas, vous prenez la parole au 32-16 ou bien comme Martine, Arnaud et Eric, vous nous envoyez un petit message sur Direct Studio.
RMC au 32-16,
45 centimes la minute.
Ou par SMS au 732-16,
75 centimes par envoi, plus prix du SMS.
RMC, Apolline Matin.
Il est 6h52, Nicolas Poincaré.
Racontez-nous.
Nicolas, ce matin, vous nous racontez cette histoire d'une des plus grosses entreprises du monde qui est dans la tourmente.
Oui, c'est pas n'importe quelle entreprise. Donc Boeing, l'avionneur américain, en pleine zone de turbulence. Et c'est tout l'état-major qui a été débarqué. Le PDG Dave Calhoun a annoncé sa démission hier. Son adjoint chargé de l'aviation commerciale est remercié avec effet immédiat. Et le président du conseil d'administration ne sera pas renouvelé après la prochaine assemblée générale. Ces trois hommes payent les conséquences de la fameuse porte arrachée Vous vous souvenez ce spectaculaire incident à bord d'un vol d'Alaska Airlines, lorsque la porte s'était tout simplement envolée. Il n'y avait eu aucune victime, si ce n'est la réputation du constructeur, parce que l'enquête avait révélé que les techniciens de Boeing avaient commis des lourdes fautes. Ils avaient enlevé des boulons et oublié de les remettre. Et puis après la porte qui s'est envolée, est arrivée l'affaire de la roue qui est tombée. C'était il y a à peine 15 jours. La roue d'un Boeing s'est détachée au décollage et elle a écrasé une voiture qui se trouvait sur le parking de l'aéroport de San Francisco. Entre-temps, un ancien employé, lanceur d'alerte, avait aussi raconté qu'il avait souvent dénoncé des défauts dans les contrôles qualité sans jamais être écouté. Ça fait beaucoup en quelques semaines et le PDG a donc été remercié.
Un PDG qui avait pourtant été nommé pour justement redresser l'image de l'entreprise.
Oui, David Calhoun était arrivé en 2020 après la vraie série noire bien plus dramatique que celle dont on vient de parler. En 2018 et 2019, deux 737 MAX s'étaient écrasés, l'un en Éthiopie, l'autre en Indonésie, faisant en tout 346 morts. Les 737 MAX qui venaient tout juste d'être lancés ont alors été cloués au sol pendant plusieurs années et Boeing ne s'en est pas vraiment remis encore aujourd'hui. Les temps sont durs donc pour ce fleuron de l'industrie américaine fondé en 1916 par un certain William Boeing, entreprise donc temps numéro 1 mondial et désormais dépassée par l'européen Airbus. Airbus, ses avions avec les portes bien attachées.
Exactement. 6h54, Charles.
RMC, Apolline Matin.
On n'a pas osé vous en parler.
Oui, voilà, Charles est là. Et avec vous, on se lance dans un tour de France des expressions locales les plus hautes en couleur.
Oui, à chaque ville, à chaque région, ces expressions. Et c'est la plateforme d'apprentissage des langues Prépli qui a sondé les Français, d'abord sur leur connaissance des mots propres à chaque région. Et à ce jeu-là, ce sont les expressions marseillaise qui l'emporte, hein, les mots fada, emboucané, minot ou encore tarpin sont connus d'une large majorité de Français. Marseille est d'ailleurs la ville dans laquelle les habitants utilisent le plus leurs propres expressions au quotidien. Très haut dans le classement des mots les plus connus, on a aussi le gavé qui nous vient de Bordeaux. Ouais. On trouve le bilout lillois ou encore le pélo lyonnais.
Le pélo lyonnais, bien sûr.
Qui fait tant plaisir.
Amélie. Amélie, on sent qu'elle est là, elle est contente.
Elle est très impliquée.
Pélo, c'est un mec.
C'est la même chose, oui. Comme un bilout.
Un bilout. Nico le pélo.
Oui, tu as d'abord été un minot à Marseille quand tu étais plus jeune. Mais dans ce sondage, on a aussi demandé aux Français quelles régions avaient les expressions les plus ridicules. Ah. Et là, c'est l'Alsace qui est en tête. Ah. Les expressions alsaciennes sont celles qui font le plus sourire les Français. On a par exemple une schluck, c'est une
femme.
Une gorgée. Un schmutz.
Un bisou,
bravo.
Un petit schmutz.
Oui. On peut aussi enfiler ses schlops. Ce sont les
chaussettes.
Les pantoufles.
Nul.
Et parfois, le matin, on est un peu schlass.
Ah ouais, mais schlass, c'est
quoi? Ah, mais schlass.
Bravo,
ouais.
Apo.
Ah, schlass.
Oui.
Moi, j'aime bien schlass.
Moi aussi.
Et oui, ouais, schlass, j'accepte moi. Eh ben, c'est schmutz. Comment schmutz? Comment on dit
schmutz? Schmutz, c'est le bisou. Et schluck, c'est la gorgée.
Allez, 6h56. Schmutz à tous. Et bienvenue dans Pauline Matin. On poursuit dans un instant avec la météo et le journal.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.